Alors, je resalue tout le monde. La plupart d'entre vous, vous avez suivi courageusement le module qui traversait le livre d'Isaïe, une grande traversée. Il y a quelques-uns aussi qui arrivent pour Matthieu, ben, qu'ils soient les bienvenus. Et le fait qu'on passe d'Isaïe à Matthieu, ce n'est pas nécessairement fortuit ou une imagination comme ça. Je m'étais d'emblée dit, mais il faudra signaler que Matthieu est l'un des plus grands lecteurs d'Isaïe du Nouveau Testament. Matthieu lit et cite Isaïe. Et Catherine Brouet, qu'elle en soit remerciée, m'a aussitôt dit, mais il faut aller voir les vitraux de Chartres. Il faut aller voir les vitraux de Chartres. Et c'est Benoît Weymuller qui m'a envoyé le vitrail, regardez. Dans ce vitrail de la cathédrale de Chartres, Matthieu est grimpé sur les épaules d'Isaïe. Voilà. Selon ce que dit Grégoire le Grand, nous sommes des nains montés sur les épaules des géants. Ben c'est déjà vrai du Nouveau Testament, où le nain Matthieu est monté sur les épaules du géant Isaïe. Merci pour ce vitrail que je trouve formidable. Alors, cet évangile de Matthieu, vous le savez, c'est le premier des quatre évangiles, et ça, c'est vrai depuis toujours. Enfin, depuis qu'on a des manuscrits qui présentent plusieurs évangiles, depuis qu'on a des listes, et c'est très tôt, troisième siècle, deuxième, fin du deuxième siècle déjà, Matthieu est le premier. Donc, il a toujours été celui qui ouvrait les écritures chrétiennes en assurant leur lien avec les écritures juives qu'il cite sans cesse. De ce fait, et pour d'autres raisons, on l'a très tôt et de façon assez permanente considéré comme l'évangile de l'Église. Pendant très longtemps, jusqu'à Vatican II, on lisait essentiellement Matthieu dans la liturgie. Alors, est-ce parce qu'il est le seul à dire la fondation de l'Église par Jésus qu'il appuie, qu'il a bâti sur pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église? Est-ce aussi parce que Jésus, comme on va le montrer, le nouveau Moïse dispense un enseignement moral, éthique très important, qui interprète la loi juive, qui place la vie des disciples et de l'Église sous l'horizon du jugement, et ça a toujours été important pour l'Église, de placer ses fidèles, et on l'espère elle-même, sous l'horizon du jugement. En tout cas, voilà, un évangile qui a été extrêmement important. Alors, une présentation générale d'abord. Quelques mots que vous pouvez, sur les questions que vous pouvez vous poser, à quel moment a-t-il été écrit, quel lieu, dans quel milieu, par qui, etc. Ce qu'on sait de plus ancien, c'est qu'autour, au début du deuxième siècle, 125, c'est quand même très tôt, hein, un évêque de Hiérapolis, dans l'Asie mineure, hein, sur la côte actuelle turque de la Méditerranée, enfin un peu à l'intérieur des terres, Papias, qui est cité, comme toujours par Eusèbe de Césarée, parce que c'est Eusèbe de Césarée au IVe siècle qui a compilé tout ça et qui a sauvé finalement tant de choses. Alors Papias qui écrit, Matthieu réunit donc en langue hébraïque, entendez l'araméen, hein, les sentences, mais il écrit en grec, hein, Papias, les sentences, et chacun les interpréta ou les traduisit, parce que c'est le verbe de l'herméneutique qui veut dire interpréter ou traduire, comme il était capable. On a tiré de ça qu'il y a eu un évangile de Matthieu en araméen, et certains se sont même escrimés à le reconstituer. Pourquoi pas réécrire du Matthieu en araméen? Moi, je trouve que c'est, on ne fait pas quelque chose comme ça. Il y a peut-être eu, et il y a certainement eu, des écrits en araméen, des choses en araméen, mais nous n'en avons rien. Voilà, c'est attesté nulle part. D'autre part, quand Papias parle des logias, des sentences, les logias, c'est pas un évangile. C'est justement ce qu'on a pu repérer comme étant un recueil de paroles et d'enseignements. Alors, on l'a surtout en grec et en syriaque, mais il y a probablement de l'araméen derrière, que Matthieu utilise, mais qui n'est pas un évangile. Il n'y a aucun récit, ni de la naissance, évidemment, mais ni de la mort et de la résurrection de Jésus. Ce sont juste des enseignements. Voilà. Donc, ce que nous avons, c'est un évangile qui est écrit en grec. Matthieu écrit en grec, et plus que cela, Matthieu cite les écritures juives dont il est absolument imprégné, il les cite selon la Septante grecque. C'est-à-dire, Matthieu ne va pas chercher, lorsqu'il veut citer les écritures, il ne va pas chercher le texte hébreu, le connaissait-il peut-être, on n'en sait rien. Ses écritures, c'est la Septante, c'est du grec. Et la preuve, c'est que un certain nombre de passages n'auraient aucun sens si Matthieu citait l'hébreu et non pas le grec, ou traduisait directement l'hébreu et non pas le grec. Le passage le plus célèbre, c'est l'annonce de la naissance de Jésus à Joseph, qui cite le texte d'Isaïe. Alors, vous voyez déjà Isaïe 7, 13, l'annonce de l'Emmanuel, avec cette phrase que Matthieu cite, la jeune fille ou la vierge sera enceinte et enfantera un fils. Voilà, c'est cité Matthieu 1, 23. Or, l'hébreu, lui, dit la jeune femme, la jeune reine, mais c'est une jeune femme qui a déjà eu un fils, sera enceinte et enfantera un fils. Donc, la démonstration de virginité qui est issue de la Septante grecque ne marche pas avec l'hébreu. Bon, il y a d'autres exemples comme ça. Matthieu écrit en grec. Alors, où? À quel endroit? Moi, j'en sais rien. Ce que disent les spécialistes, en tout cas la discussion, les gens qui discutent là autour, c'est clairement, on s'appuie sur ce que dit à nouveau Eusèbe de Césarée et quelques éléments aussi de Flavius Josèphe, la communauté, une communauté de judéo-chrétiens, probablement celle de Matthieu, a quitté Jérusalem au début de la guerre juive, lorsque les Juifs se sont mis à s'entretuer entre eux et à être attaquer les Romains qui contre-attaquaient évidemment. Et ils se seraient enfuis de l'autre côté du Jourdain, en remontant un peu vers le nord, avant le lac de Tibériade, à Pella. Et ensuite, ils auraient essaimé dans la Syrie. Et donc, actuellement, on propose comme lieu de l'évangile de Matthieu Antioche de Syrie, qui actuellement est en Turquie. Ça, c'est pas grave. Le milieu dans lequel l'évangile apparaît, est écrit, et ça, c'est essentiel, c'est un milieu mêlé. C'est un évangile qui va sans arrêt avoir un souci d'unité, de faire l'unité entre des tendances centrifuges. Essentiellement d'abord, ce sont des judéo-chrétiens, puisqu'ils viennent de Judée et de Jérusalem. En chemin, à Pella, et encore plus à Antioche, ils rencontrent des chrétiens venus du paganisme. Voilà, des chrétiens déjà passés à la foi chrétienne qui s'agglutinent aux communautés. Et on voit très bien que la ville d'Antioche était le lieu où des communautés de ce genre, mélangées d'anciens juifs et d'anciens païens, commençaient à avoir une vraie place, enfin un vrai essor. Vous lisez le livre des Actes au chapitre 11, hein, puis au chapitre 13, parce que Paul va partir d'Antioche, on voit très bien l'importance de cette communauté d'Antioche où travaillent Barnabé et Paul. On sait aussi, par la lettre aux Galates, grâce à Paul, que c'est à Antioche qu'il y a déjà eu des tensions assez fortes entre les chrétiens venus du judaïsme et ceux du paganisme. Dans la lettre aux Galates, Paul reproche de façon vigoureuse à Pierre d'avoir refusé de manger avec les païens alors qu'il le fait d'habitude, mais là il a peur des gens qui viennent du judaïsme et qui disent qu'il va manger des nourritures impures. Enfin, on voit qu'à Antioche, il y a des tensions. Il y a des tensions et en plus, l'évangile de Matthieu montre bien que les chrétiens qui viennent du judaïsme, ces judéo-chrétiens, ont emmené avec eux des paroles de Jésus, des enseignements. Ils ont gardé des choses importantes avec eux, notamment la mémoire de paroles de Jésus qui restreignent sa mission à un retour d'Israël vers Dieu. Et par deux fois, au cœur de l'évangile de Matthieu, au chapitre 10 essentiellement, mais on le reverra aussi au chapitre 15, on a ces paroles de Jésus: ne partez pas sur le chemin des nations païennes, n'entrez pas dans une ville des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et au bout du discours, il leur dit de faire vite, parce que vous n'arriverez pas au bout des villes d'Israël avant que vienne le Fils de l'homme. Voilà. De la même façon, à la femme cananéenne, Jésus dira: mais il ne faut pas prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens, je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc des gens qui sont assez fermés sur une identité judéo-chrétienne qui veut rester telle. Et cela se renforce du fait qu'ils sont À ce moment-là, on est donc après les années 70, face à la synagogue. Après les années 70, vous le savez, chute de Jérusalem, le temple est brûlé, la ville est largement détruite et incendiée, et le judaïsme, les sadducéens, les grands prêtres, sont tous massacrés. Le judaïsme n'a plus de culte, il n'a plus de temple, il n'a plus de centre. Et il va se recentrer autour de quelques pharisiens et rabbis qui vont reconstituer un judaïsme autour de la loi et la faire étudier dans les synagogues. Voilà, la loi et cette loi est lue, étudiée dans les synagogues. Évidemment, en se reconstituant, ce judaïsme qui a besoin de définir très fort sa nouvelle identité va écarter tout ce qui lui apparaît comme déviant. Et parmi ces déviants, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais parmi ces déviants, il y a les fameux Nazoréim, c'est-à-dire ces disciples du Nazaréen, probablement, en tout cas ces chrétiens. On voit bien dans l'évangile de Matthieu à quel point la tension a grandi entre les Juifs, restés Juifs et devenus des Juifs du livre, de la loi, hein, et les judéo-chrétiens, puisque finalement l'évangile prend des distances et fait dire à Jésus, à ses disciples, ils vous livreront au Sanhédrin. Alors les Sanhédrins locaux, hein, il y en avait dans la plupart des villes où il y avait un peu partout des communautés juives, et ils vous flagelleront dans leur synagogue. Il y a au moins 5 fois cette expression leur synagogue, donc ce n'est plus la nôtre. Il y a aussi leur scribe. Voilà. Donc ces gens-là sont en difficulté parce qu'ils sont exclus, ben Dieu le dit une fois, Jean le dira 5 fois, exclus de la synagogue. Ils doivent aussi se retrouver une identité et accueillir dans leur communauté chrétienne des païens qui sont devenus chrétiens. Donc c'est une situation difficile et l'évangile de Matthieu doit travailler à cette unité, convaincre ses lecteurs venus du judaïsme de s'ouvrir aux nations païennes, à l'universel, tout en restant, parce qu'il reste fermement attaché, aux Écritures que Jésus vient accomplir. Voilà. Donc on reste attaché très fortement à cette tradition juive, mais on l'ouvre aux païens tout en se séparant, en étant de fait séparés de la synagogue. Ça, c'est vraiment central dans le travail de l'évangile de Matthieu, assurer cette unité difficile entre des groupes centrifuges et finalement s'ouvrir aux païens. C'est peut-être la raison pour laquelle on voit, on lit souvent comme une signature la phrase de Matthieu qui se trouve en 13,52 où il dit: Tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Alors, on a considéré que c'était pour Matthieu une façon de se désigner comme celui qui tire de son trésor du neuf et du vieux. On peut aussi voir une trace, un signe dans la scène du chapitre 9 où Jésus appelle Matthieu, le collecteur d'impôts, vous l'avez dit tout à l'heure. Dans l'évangile de Marc et de Luc qui suit Marc, ce collecteur d'impôts s'appelle Lévi. Dans l'évangile de Matthieu, il s'appelle Matthieu. Voilà. Est-ce que c'est une façon de se rattacher à une figure tutélaire qui est le collecteur d'impôts? C'est possible. Alors là voilà, la vocation de Matthieu par le Caravage. Alors ce tableau-là est plus que connu, mais tellement magnifique par ses mains, ce jeu des mains qui suivent l'ombre, la main du Christ là qui vient relayer, qui vient toucher la tête baissée du collecteur d'impôts, et les regards qui partent au contraire tous dans l'autre sens, vers Jésus qui est dans l'ombre. Maintenant, un mot des sources. À partir de quoi Matthieu travaille-t-il? Comme Luc, Matthieu utilise l'évangile de Marc. Et c'est assez fabuleux quand on le réalise. Il y a 80% de l'évangile de Marc qui est repris dans Matthieu. Et malgré ça, les deux évangiles sont extrêmement différents. Alors d'abord parce que Matthieu est au moins une fois et demie plus long que Marc. Il y a quelque chose comme 680 versets chez Marc et il y en a plus de 1000, 1060 ou 1070 chez Matthieu. Donc il y a une vraie différence. Les différences viennent des ajouts, bien sûr. Cinq discours, Marc n'en a qu'un. les paroles, les logias, les évangiles de l'enfance. Les différences viennent justement d'une autre source que Matthieu utilise, que Luc utilise, mais que Marc n'utilise pas. Cette seconde source, on l'appelle justement la source des enseignements ou la source des paroles, ces fameux logias. On l'appelle aussi la source Q, parce qu'elle a été dénommée, identifiée par un Allemand et qu'il l'a appelée la Quelle, la source. Donc vous entendrez parler de la source Q. On la trouve chez Luc, on la trouve chez Matthieu et on la trouve aussi dans l'évangile non canonique, donc apocryphe, dit apocryphe, de Thomas au milieu du deuxième siècle. L'évangile de Thomas, c'est une série de paroles de Jésus. Donc ces fameux logias, du genre qui veut gagner sa vie la perdra, celui qui a on lui donnera, celui qui n'a pas même ce qu'il a on lui enlèvera. Une centaine ou même un peu plus, 120 paroles de Jésus qu'on retrouve chez Luc, qu'on retrouve chez Matthieu. Qui sont des paroles qui viennent beaucoup, qui témoignent beaucoup d'un courant radical issu de la mission. La mission probablement les premiers qui sont partis. En mission en Galilée, avec l'idée que ben, le Fils de l'homme allait revenir bientôt, qui sont des radicaux et qui sont donc des itinérants qui ont comme ça transporté des paroles de Jésus en les durcissant d'ailleurs souvent. Et puis il y a effectivement le travail que Matthieu lui-même a fait en ajoutant ses propres sources, parce que chaque évangile à ses propres sources, dont on ne sait pas d'où il les tire, mais l'évangile de l'enfance de Matthieu, c'est pas celle de Luc, et il a ses sources. Le discours sur la montagne, en grande partie, Matthieu a sa source. Ce qu'on appelle le manifeste final, toute la fin du chapitre 28. Voilà. Et puis ce travail qu'a fait Matthieu pour nous présenter un évangile différent. Voilà. Notre témoin du Christ vivant, mort et ressuscité. Un évangile différent et dont le plan est différent. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal, je ne sais pas ce que vous ferez ensemble, mais moi, j'ai eu beaucoup de mal pour proposer un plan de l'évangile de Matthieu. À vrai dire, j'y suis pas arrivée. En gros, bien sûr, c'est simple. En gros, c'est simple. Matthieu suit l'organisation de Marc. La mission de Jésus s'étend sur à peu près un an seulement, pas les 3 ans de Jean. Il avait mis d'abord les évangiles de l'enfance, ensuite il y a la Galilée, avec des allers-retours en Cisjordanie, de l'autre côté du Jourdain ou de l'autre côté du lac. Il y a un chemin vers Jérusalem, puis il y a une arrivée à Jérusalem avec la Passion et les récits de manifestation du ressuscité. En même temps, Matthieu bouleverse largement cet ordre. D'abord, il intègre 5 grands discours, qui sont d'ailleurs disposés de façon pas du tout claire dans son évangile, parce que les trois premiers sont groupés dans les 12 premiers chapitres, et puis qu'il y en a un au chapitre 18, un au chapitre 25. On a essayé de construire un plan de l'évangile autour de ces 5 discours. Il y a même des exégètes qui ont dit c'est comme les 5 livres de la loi. Bon, chaque fois qu'il y a 5 choses, c'est pas les 5 livres de la loi, hein. Enfin, je ne sais pas, moi, je ne trouve pas ça convaincant. Alors, si vous voulez vous repérer un petit peu, je vous propose le plan suivant. Vous le trouverez dans la conférence. En gros, on a une première partie dont on peut détacher évidemment l'introduction du chapitre 1 au chapitre 4, avec la naissance de l'enfance et l'enfance de Jésus, celle de Jean-Baptiste, et pas même pas celle de Jean-Baptiste, la manifestation de Jean-Baptiste et le passage de Jean-Baptiste à Jésus. Le baptême de Jésus, les épreuves au désert. Puis une grande première partie de 4 à 14, la mission en Galilée, qui se termine par la mort de Jean-Baptiste et qui comprend 3 discours. Alors les discours chez Matthieu, ils ont cette caractéristique par le fait qu'ils se terminent toujours par la même, on dit clausule. Lorsque Jésus eut achevé ses paroles, lorsque Jésus eut achevé ses paroles, vous allez le trouver 5 fois. Et dans cette première partie, vous allez le trouver 3 fois. À la fin du discours sur la montagne, qui s'étend sur 3 chapitres, hein, 5, 6, 7. Après quoi, il y a l'appel des disciples. Il y a un discours missionnaire ou apostolique, l'envoi des disciples en mission. Il y a des controverses, il y a un discours en parabole, et puis c'est la mort de Jean-Baptiste et finalement la fin de la présence de Jésus, de la mission de Jésus en Galilée. Deuxième partie, en route vers Jérusalem. Pour moi, c'est un peu le centre de l'évangile, parce que c'est là que vous avez, alors ça va de 14 à 20, mais vous avez au chapitre 16 la confession de foi de Pierre à Césarée, hein, et puis là, le fait que Jésus lui dit qu'il va bâtir, appuyer sur lui son Église, et c'est la révélation de Jésus comme Christ et Fils de Dieu. Et puis c'est suivi par, évidemment, le discours sur l'Église, puisque ce discours est un discours pour armer les disciples de Jésus. Hein, l'évangile de Matthieu, c'est... Alors, on peut l'appeler, il y a des gens qui l'appellent comme ça, je trouve que c'est aller un peu loin, mais le manuel du disciple, c'est chaque fois tourné vers que doivent faire les disciples. Donc, un discours sur l'Église. Et puis, vous avez une troisième partie, 21 à 27, où vous trouvez le discours eschatologique sur la fin, mais où vous avez les éléments qu'on trouve chez Marc et chez Matthieu, l'entrée de Jésus glorieuse à Jérusalem, la purification du temple, le conflit avec les autorités, un grand nombre de paraboles qui sont propres à Matthieu, les paraboles du jugement, et finalement la passion et la mort de Jésus. Et puis, un chapitre court, chapitre 28, il y a 20 versets, hein, sur les manifestations du ressuscité. Voilà, c'est grossier, vous pourrez vous y repérer et puis voir comment ça se déroule dans le détail. La perspective que je propose pour lire l'évangile de Matthieu, elle est douze, elle est double. Et vous le retrouverez dans les parties suivantes. Elle est d'abord christologique. Matthieu veut montrer que le Jésus est le Messie, le Christ d'Israël, accomplissant pleinement toutes les promesses et les alliances de Dieu avec son peuple. Et en même temps, de ce fait même, il est le Fils qui révèle un nouveau visage de Dieu. Voilà. Il est l'Emmanuel, c'est-à-dire il est Dieu avec nous pour toujours, jusqu'à la fin des temps, c'est la fin de l'Évangile. Hein. Je suis avec vous pour toujours. Ça, c'est le première visée de l'Évangile. Deuxième visée, construire des disciples en assurant l'unité entre les judéo-chrétiens et ceux qu'ils doivent accueillir, les frères païens, en se situant ensemble fermement face à la synagogue. Les judéo-chrétiens en accueillant leurs frères païens, les pagano-chrétiens en acceptant et en respectant la tradition juive qui conduit à Jésus. Voilà, il faut inventer et structurer une église de disciples venus du judaïsme et venus du paganisme qui marchent à la suite de Jésus en respectant toute justice, et je vais beaucoup parler de ce mot justice, qui est son enseignement, l'enseignement qui doit modeler leur vie. Alors, trois parties inégales. Une première partie où j'essaye de montrer que l'évangile est construite en inclusion. Une deuxième partie sur le Christ et une troisième partie, bien sûr, sur l'Église et les disciples. Bon, inclusion, vous le verrez vous-même, mais j'y insiste un peu parce que je ne vous ai pas proposé, dans les cinq séances de rencontre, de travailler les évangiles de l'enfance. Certains m'en voudront beaucoup, mais de toute façon, il y avait 28 chapitres et j'avais droit à cinq séances. Donc vous voyez que fallait que je choisisse. Bon, en même temps, je trouve que c'est assez facile de montrer que ces évangiles de l'enfance, elles permettent à Matthieu de construire une espèce d'inclusion, d'anneau, d'annoncer ce qui va être le chapitre sur la résurrection à la fin, et même la mort et la résurrection de Jésus. Comment l'annoncer? Eh bien, par plusieurs choses. D'abord, le premier mot du texte de Matthieu, c'est Génésis. Alors, on traduit généalogie, alors Génésis de Jésus-Christ, hein? Généalogie de Jésus-Christ ou ascendance ou voici quels sont les ancêtres. Mais en fait, le mot doit se traduire par Genèse parce qu'il renvoie au premier livre de la Bible qui est en grec s'appelle la Genèse. Genesis, c'est le nom grec du premier livre de la Bible. Et pour Matthieu, ce qui commence là, c'est une nouvelle création. Avec Jésus commence une nouvelle création. Et paradoxalement, une nouvelle création qui est ancrée dans la généalogie qu'il va énoncer, ancrée dans ce peuple juif dont Jésus est l'héritier. Et donc la généalogie commence à Abraham, passe par David et arrive à Jésus. Si vous compariez avec la généalogie de Luc, vous seriez un peu inquiet. Parce que Luc a 77 noms, Matthieu en a 42, les noms ne sont souvent pas les mêmes, et même Joseph n'a pas le même père des deux côtés. C'est embêtant, il y a des exégètes qui ont inventé qu'il y avait des frères jumeaux. Bon, ça ne veut rien dire, c'est simplement que chacun bâtit sa généalogie parce qu'il veut donner un sens à cet ancrage de Jésus dans une histoire. Et pour Matthieu, c'est clair, c'est les promesses de Dieu à Abraham et à David. En plus, ces promesses, elles s'ouvrent à autre chose qu'au monde juif. Dans la généalogie de Jésus, il y a quatre femmes, et ces quatre femmes sont des étrangères et sont des irrégulières, je le dis gentiment, aux yeux de la loi. Rahab, la prostituée de Jéricho, qui cache les envoyés de Josué pour les faire passer dans la terre de Canaan. Tamar, qui, pour avoir une descendance, et parce que tous ses maris sont morts sans lui donner de descendance, va coucher avec son beau-père pour lui faire un fils. Ruth, qui est en tout bien, tout honneur, est quand même une Moabite, c'est-à-dire une ennemie par définition, qui va aller voir Boaz et avoir pour petit-fils David. Et enfin, Bethsabée, qui est aussi une étrangère, la femme du Hittite, sur laquelle David met la main. Voilà. Quatre irrégulières, et la cinquième, elle l'annonce, c'est Marie. Et il y a vraiment là quelque chose de très fort qui est dit dans cet évangile. Ce qui est dit très fort aussi dans ce début, c'est on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ça va être repris à la fin du texte. On voit aussi apparaître des mages venus des nations d'Orient en suivant l'étoile, comme l'avait fait le mage ou le devin Balaam, que le roi étranger avait envoyé pour détourner les troupes d'Israël, mais qui au contraire dit qu'il a vu naître une étoile et que de cette étoile descendra, eh bien viendra un descendant de David qui régnera. Voilà. Vous avez aussi dans ce début la Galilée des nations. Vous voyez bien qu'on s'ouvre, on est à la fois ancré dans le monde juif et c'est une large ouverture vers les nations, hein, cette Galilée qui est le lieu où l'on passe à l'étranger. Eh bien, dans la finale, vous allez retrouver les mêmes choses. Vous allez retrouver, au moment de la mort de Jésus, quelque chose d'assez hallucinant. Il y a tout d'un coup la terre qui tremble, les tombeaux qui s'ouvrent, les morts qui ressuscitent. Il y a une création nouvelle qui naît là, ce qui était annoncé au début. Vous avez l'envoi de Jésus, non pas au mage, mais à toutes les nations. Allez, faites des disciples dans toutes les nations. Et vous avez l'affirmation que c'est lui l'Emmanuel. Je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Voilà, il y a donc bien un emboîtement qui est, on s'ancre dans la tradition juive, mais ouverture le plus large possible à l'universel, de part et d'autre de cet évangile. Et au centre, Matthieu a conservé les réticences des judéo-chrétiens qui pense que Jésus n'était venu que pour les enfants perdus de la maison d'Israël. On l'a lu tout à l'heure au chapitre 10, et il y a un moment dans l'évangile où une femme, une étrangère, une ennemie par excellence, la femme de Canaan, hein, les Cananéens, c'est ceux qui étaient là quand Dieu nous a donné la terre quand même, hein, c'est ceux dont on a pris le pays. Voilà. Eh bien, c'est elle qui convainc Jésus de se tourner vers les païens. Parce que Jésus est dur avec elle, elle accepte même quelque chose qui ressemble à une insulte, hein. Ne pas prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens, appeler des païens les petits chiens, quand c'est dans la bouche d'un juif, ça ressemble à une insulte. Et elle le force à accepter de venir de guérir sa fille, elle le force à l'ouverture, par son humilité et sa ténacité. Et Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, et la fille est guérie, et Jésus donc ouvre finalement la mission aux païens. Voilà. Ouvre la mission aux païens, il est à la fois le roi des Juifs que cherchent les mages et qui terrifie Hérode, il mourra sous ce titre, mais il est beaucoup plus, et Matthieu, tout au long de son évangile, fait converger vers lui toutes les grandes figures. Comme un peu Marc, mais plus encore, toutes les grandes figures de l'Ancien Testament, David, Le suppliant des psaumes, il est le serviteur souffrant d'Ésaïe, et il est surtout, et ça m'amène à cette deuxième partie, Jésus est surtout présenté par Matthieu comme le nouveau Moïse, qui donne la charte de la vie dans le royaume. Donc Jésus est le Christ enseignant, je crois que ça c'est massif dans l'évangile de Matthieu, et qu'est-ce qu'il enseigne? Il enseigne à agir. La foi chez Matthieu, c'est agir. C'est agir, c'est faire la justice. Alors, pour essayer de montrer comment vient cet enseignement, quand Matthieu rédige son évangile, on est donc dans les années 80, 85, il y a des obstacles qui sont apparus, j'en ai déjà évoqué un, mais j'en évoque d'abord un autre, le retard du Seigneur, c'est-à-dire qu'on attendait la venue du Seigneur. Peut-être Paul l'attendait-il pour sa propre vie, on n'en sait rien. En tout cas, chez Matthieu, c'est clair, il ne revient pas. Il est parvenu. Et vous avez les paraboles où le maître tarde. Et vous avez ces phrases, veillez, car vous ne savez pas quand votre maître va venir. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour d'une heure, ni l'heure. Témoin d'une inquiétude. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'il ne revient pas? Et l'évangile répond à ce retard. Il ne faut pas le déplorer, ce retard. Parce que ce retard conduit au contraire à la foi et à la certitude affirmée à la fin, moi je suis avec vous tous, avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas à l'attendre puisqu'il est là. La réponse, elle est donnée dans l'évangile. Il tarde, il n'y a pas à l'attendre. Non, allez en mission, je suis avec vous tous les jours. Et sa présence se dit, mais où? Eh bien, dans son évangile. Dans son enseignement, qui va décrire la vie selon le royaume, conforme à ce qu'il a lui-même vécu. Voilà. Il est le modèle, il donne un enseignement qui décrit ce qu'il a lui-même vécu, et c'est ça qu'il va falloir mettre en pratique. Et mettre en pratique dans un conflit aigu, je l'ai dit tout à l'heure, avec la synagogue, dans un conflit d'héritage. Et donc Matthieu va reprendre les éléments de la loi juive, il va reprendre le décalogue et montrer que Jésus, nouveau Moïse, revenu comme Moïse d'Égypte, bon, il y a tout, là aussi l'évangile de l'enfance met les choses en récit, hein. Mais Jésus va interpréter le décalogue, va interpréter la loi juive pour accomplir toute justice. Et donc, il va venir se faire baptiser d'abord par Jean, puisque c'était les mouvements baptistes, et d'ailleurs il en a fait partie, qui, au fond, ont le mieux conduit à la foi en Jésus. Hein, c'est les premiers chrétiens sont venus des mouvements baptistes, Jésus lui-même. Donc Jésus dit, il faut accomplir toute justice. Qu'est-ce que c'est que cette justice qui revient à plusieurs reprises, hein, Jésus va dire, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume. Mais cette justice, c'est vraiment suivre la loi dont il est l'interprète et dont il est le modèle, et qu'il va situer ben, sous l'horizon du jugement de Dieu, c'est-à-dire en étant fidèle à la volonté de Dieu. Et le sermon sur la montagne, c'est ça, c'est la loi magistralement réinterprétée par une autorité nouvelle, qui est celle de Jésus, mais qui va dire qu'il parle directement au nom de Dieu, que c'est la parole de Dieu qui l'interprète, et il va dire aux autres, on vous a dit, il vous a été dit, c'est la votre tradition, c'est la tradition de vos pères, mais moi je vous dis. Et donc il y a une espèce d'autorité incroyable dans la présentation de Jésus par Matthieu dans ce sermon sur la montagne. En fait, il est au fond sur la montagne, il est sur le Sinaï, et nouveau Moïse, mais cette fois-ci, j'allais dire de façon beaucoup plus large que Moïse, il parle au nom même de Dieu. Vous avez annulé la parole de Dieu au nom de votre tradition, et moi, c'est la parole de Dieu que je vous dis. Alors, cette parole de Dieu, elle va être d'une exigence extrême. Elle va être d'une exigence extrême, insupportable. Mais elle n'est insupportable que si on ne la lit pas depuis le début. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir le sermon sur la montagne, comme, et le lire toujours comme Jésus l'ouvre, c'est-à-dire avec une précédence. Il y a d'abord une précédence qui est celle d'un bonheur offert. La loi, elle ne va pas commencer par faites ceci, faites cela. Hein? Elle commence même pas comme le décalogue. Elle commence par un heureux. Heureux sont ceux qui, par leur attitude spirituelle et morale, chez Matthieu, c'est très spiritualisé, hein? Les pauvres, c'est les pauvres en esprit, c'est les humbles, eh bien, sont en quête de justice. Et ça vient deux fois dans le sermon sur la montagne, hein, la quête de justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, et à la fin, hein, heureux si vous êtes persécutés pour la justice. Donc il y a d'abord, quand on va lire la loi et qu'on va voir qu'elle est terrible, qu'elle est une exigence qu'on supporte, qui est difficile à vivre, il y a d'abord, vous êtes heureux. Vous êtes heureux parce que vous l'écoutez et parce que vous vous mettez dans cette attitude de pauvreté de ceux qui écoutent. Alors, il y a des paradoxes dans ce que Jésus va dire, et on est parfois gêné par ce sermon sur la montagne qui commence par l'affirmation « Je ne suis pas venu abroger la loi et les prophètes, mais accomplir. » Qu'est-ce que ça veut dire accomplir? Surtout quand Jésus dit que pas un point sur la loi, sur le i, pas un peu, le plus petit signe de la loi ne passera. Mais on ne va pas se mettre à appliquer tous les détails de la loi juive. D'ailleurs, les détails, il y en a dans les trois lois différentes, et ils sont parfois contradictoires, que sont l'Exode, le Lévitique et le Deutéronome. Voilà. Je crois que ça veut dire qu'au fond, il s'agit de la pousser à l'idéal, et l'idéal, c'est l'ajustement parfait de l'humanité à la volonté de Dieu, et l'humanité parfaitement ajustée à la volonté de Dieu, ben, c'est celle de Jésus. C'est lui, c'est sa façon de vivre qu'il décrit. Alors il va radicaliser les commandements. Non seulement on ne pas tuer le frère, ce qui est peut-être la moindre des choses, mais même pas l'insulter. Celui qui dit fou à son frère, il est passible de la géhenne. Bon, c'est le talion retourné à l'extrême, si vous voulez. Il y a un excès dans cette radicalisation. C'est-à-dire, personne ne peut prétendre vivre ça. Mais il faut cet excès, parce que c'est celui que Jésus, lui, va vivre, et c'est au fond ce vers quoi tendent ceux qui sont heureux d'écouter ça. Avec comme commandement aussi des aménagements, le billet de renvoi donné à la femme qu'on veut renvoyer sans plus, que Jésus interdit, etc., etc. Il y a un commandement qui, finalement, résume tous les autres, c'est l'amour des ennemis. On a dit parfois que c'était un commandement nouveau, et il y a même eu des livres d'exégètes tout à fait honorables, Simon Legas était un grand monsieur, pour dire que l'amour des ennemis était la nouveauté absolue chrétienne. Moi, je n'y crois pas. Paul, dans la lettre aux Romains, au chapitre 12, cite les proverbes, et dans les proverbes qu'il cite, on trouve « Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. » Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. C'est-à-dire que, bon, ça ne veut pas dire qu'on l'aime, mais enfin, donner à boire à celui qui a soif, à manger à celui qui a faim, c'est déjà ne pas le haïr. Voilà. Je crois que l'amour des ennemis n'est pas vraiment une nouveauté. C'est une façon de dire l'excès. C'est une façon de dire, il faut être parfait comme votre Père céleste est parfait. Il y a une tradition, hein, dans le judaïsme qui dit imiter Dieu. On la retrouve dans la lettre aux Éphésiens. Il y a cette espèce d'idéal de perfection, comme le Père céleste est parfait. Et en fait, si on avance un peu dans le texte, on s'aperçoit que cette perfection, elle passe essentiellement par la miséricorde. Voilà. C'est la bonté de Dieu, son pardon, la pitié. Et c'est au fond là le chemin de perfection qui est offert, qui est d'abord un chemin modeste que les disciples peuvent prendre sans être évidemment jamais parfait. Vous avez par deux fois la reprise du texte d'Osée, c'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. Donc, la condition des disciples chez Matthieu, la nôtre, c'est une exigence sans fin, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Il s'agit d'accomplir la justice sous l'horizon du jugement, on va en reparler. Sachant que Jésus seul a pu le faire jusqu'au bout, mais que tous ceux qui l'écoutent et le suivent sont précédés par le heureux des béatitudes et accompagnés par celui qui est avec vous jusqu'à la fin du monde. Ils ne sont pas des justes, mais heureux sont-ils parce qu'ils sont sur le chemin de la justice. Voilà ce que j'ai essayé de retenir de ce sermon sur la montagne dont vous travaillerez quelques passages. Alors ça nous conduit pour finir à cette condition des disciples qui constitue le royaume et l'Église. L'Église et le royaume, c'est très difficile de les articuler. L'Église n'est sûrement pas le royaume. Elle est en marche vers le royaume. Qui sont ces disciples? Alors, je vais le dire d'un premier jet et ensuite on va le regarder. Ce sont des hommes de peu de foi à qui il est confié de mettre en œuvre la miséricorde de Dieu. Voilà. De mettre en œuvre la perfection de Dieu même qui est la miséricorde. Il y a une grande différence entre les disciples chez Marc et les disciples chez Matthieu. Chez Marc, les disciples sont sans cesse, comment dire, rabroués, maltraités par Jésus. Je leur dis sans arrêt, mais vous avez rien compris, mais vous avez le cœur endurci, mais est-ce que vous ne comprenez rien, mais vous n'avez pas encore de foi, mais qu'est-ce que c'est que ça? Chez Matthieu, les disciples vont être au contraire sans arrêt encouragés. C'est beaucoup plus sympathique, il y a des menaces aussi, hein. Mais justement, parce que les menaces et les exigences sont terribles, Jésus encourage les disciples. Avez-vous compris tout cela? Eh bien oui, ils ont compris les disciples chez Matthieu. Et la confession de foi de Pierre, au chapitre 16, elle est complète. Chez Marc, elle n'est pas complète. Tu es le Christ, il faudra attendre la croix pour que le centurion dise, cet homme était le Fils de Dieu. Chez Matthieu, la confession de foi de Pierre est complète. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. L'Église n'est pas allée beaucoup plus loin, c'est la profession de foi de l'Église. En même temps, Pierre est vivement rabroué par Jésus dès qu'il s'oppose à l'idée de la mort, de la souffrance et de la mort. Passe derrière moi, Satan. Autrement dit, ses disciples sont fragiles. Ils sont fragiles. C'est des hommes de petite foi. Matthieu emploie cet adjectif plusieurs fois, qu'il fabrique, hein. Ça fait très bien dans un salon, les oligopistes, des hommes de petite foi. Voilà, c'est petit, mais quand même, ils ont la foi. Et ce sont des hommes qui doutent. Jésus, quand il appelle Pierre, que Pierre vienne vers lui depuis la barque, et que Pierre s'enfonce évidemment, tout ça est très symbolique, il dit, mais Pierre, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Mais il n'y a pas de vrai reproche. Il y a le constat et l'encouragement. Dans la tempête, récit de la tempête apaisée, ils appellent Seigneur, sauve-nous. La barque coule et ils se tournent au fond vers celui en qui ils reconnaissent, hein, le Dieu maître des éléments. Seigneur, sauve-nous. Et même devant le ressuscité, dans le chapitre 28, vous verrez que certains doutèrent. Et ce qui est très intéressant, c'est que certains doutèrent et que Jésus ne tient aucun compte de leurs doutes et ne leur en fait pas du tout reproche. Il leur dit, allez! Allez, enseignez, annoncez. Voilà. Vous pouvez douter, ça fait partie de la condition de disciple. Alors, ces disciples, ils forment une église qui est au fond sous le signe de la miséricorde et qui a pour privilège le privilège des pauvres. Y a plusieurs images de l'église chez Matthieu, vous les rencontrerez. C'est une communauté mélangée d'ivraies. L'ivraie, c'est comme le chien d'en, hein. C'est un truc dont on ne peut pas se débarrasser. Et de bon grain. Et on garde tout jusqu'au bout parce que ça passe à l'intérieur de chacun, évidemment, le chien d'or et l'ivraie. C'est une communauté pleine de doutes et fondée sur un homme qui a renié Jésus, Pierre. C'est une communauté à l'écoute du maître qui enseigne pour vivre selon la justice, et c'est très difficile. Mais en même temps, c'est une communauté accompagnée. Voilà. Je suis au milieu d'eux quand deux ou trois sont réunis en mon nom. Et le chapitre 18, je suis au milieu d'eux. C'est encore le Dieu avec nous, hein, au milieu d'eux. Alors il y a tout un discours qui s'adresse à cette communauté, on l'appelle le discours sur l'Église, vous le travaillerez. C'est le chapitre 18. Comme vous allez le travailler de près, j'en retiens que quelques conseils concrets et deux accents majeurs. Le premier accent, c'est assez extraordinaire, c'est l'attention extrême portée aux petits et même aux pécheurs. Parce que les petits, les pauvres, on est toujours d'accord, mais les pécheurs ont les moins. La brebis perdue qu'il faut aller chercher, il y a une interprétation de la parabole de la brebis perdue qui est très différente chez Matthieu que chez Luc. Chez Matthieu, le berger, c'est le responsable de la communauté, c'est un membre de l'Église. Alors, et la morale est extraordinaire, au rebours de tout bon sens. Parce qu'aucun berger n'abandonnera 99 bêtes pour aller chercher la centième, hein. Sinon, il se fait virer immédiatement. Au rebours, surtout du souci de l'institution, ça on connaît aujourd'hui, eh bien, on laisse tout et on va chercher la brebis perdue. C'est assez extraordinaire. Et dans le même chapitre, vous avez le pardon accordé au frère qui a péché. Alors, un pardon qui a mis en forme, vous verrez, il y a des procédures, etc. Mais qui, au fond, est la responsabilité, bah, des responsables de la communauté, mais de tout un chacun, qui doivent garder la conscience aiguë qu'ils sont eux-mêmes des pécheurs pardonnés, passibles du jugement. Et quand Pierre dit, mais enfin, combien de fois est-ce que je devrais pardonner? C'est 70 fois, 7 fois, ça veut dire à l'infini. Et il y a une parabole qui termine le chapitre 18 qui est terrible pour Pierre. Vous la lirez. Tout cela parce que on est placé, finalement, il y a des choses terribles chez Matthieu, parce qu'on est placé sous la menace du jugement. Donc je vais m'arrêter pour finir sur cette menace du jugement chez Matthieu qu'il faut lier à la figure exemplaire, je vais m'expliquer sur exemplaire d'Israël. Parce que clairement, chez Matthieu, en grande partie, le jugement porte sur Israël. Et ça a fait que, même s'il est très ancré dans les Écritures juives, l'évangile de Matthieu est l'un des plus durs avec le judaïsme, et qu'il a pu nourrir l'antijudaïsme, et qu'il a pu nourrir la théologie de la substitution qui va apparaître dès la fin du IIe siècle. Hein? L'Église comme vrai Israël, une nouvelle Israël, enfin des choses épouvantables. Évidemment, quand Matthieu dit beaucoup viendront du levant et du couchant, enfin Jésus, prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les héritiers du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, les pharisiens peuvent prendre ça pour eux. Mais vous remarquerez aussi que dans le royaume, au festin du royaume, il y a Jacob, hein. Jacob, c'est Israël. Et que les héritiers du royaume, eh bien, c'est ceux qui, à toutes les époques, se considèrent comme héritiers ou ayant droit du royaume. Et dans la communauté de Matthieu, c'est déjà l'Église. Autrement dit, dans toutes ces figures, ces paraboles sur lesquelles place la menace du jugement qui semble s'adresser d'abord à Israël, la pointe n'est pas de condamner Israël, mais de montrer qu'il n'y a pas d'appartenance qui confère de droit une place dans le royaume. Il n'y a pas d'ayant droit aux yeux de Dieu et l'avertissement vaut pour l'Église. Et je crois que chez Matthieu, à travers l'échec d'Israël, parce qu'il y a un échec d'Israël chez Matthieu, il faut lire une mise en garde constante pour les nouveaux chrétiens et pour la nouvelle Église. Je crois que c'est essentiel de garder ça en tête. Mise en garde constante, parce que, eh bien, chez Matthieu, les chrétiens sont responsables. Voilà. Le jugement, ça veut dire que les chrétiens sont responsables. Qu'on est dans un temps nouveau, où l'Église, oui, se considère bien comme née de l'échec d'Israël, mais où elle ne peut jamais prendre sa place, sinon elle est vouée de la même façon à l'échec. Elle aussi, elle est sous l'horizon du jugement. Et quiconque veut marcher vers le royaume des cieux, quiconque se définit comme un disciple ou veut être un disciple, doit accepter qu'il est sous l'horizon du jugement, que la parabole des vignerons homicides, qui évidemment s'adresse d'abord aux pharisiens, ou à ceux qui ont tué le fils, mais dit bien que quiconque s'empare du pouvoir à son profit, quiconque prétend à une certaine emprise, hein, sur les croyants et sur le royaume à son profit, eh bien, se verra enlever le royaume qui sera remis à d'autres capables de porter ses fruits. Et moi, j'ai en fait bien compris à quel point la parabole des invités au festin, qui est la parabole scandaleuse par essence, avait ce sens-là. La parabole des invités au festin, vous le savez, c'est tous ceux qui ne veulent pas venir. Les premiers appelés, les amis du propriétaire qui invite, du maître du festin, ne viennent pas. Ils ont chacun trop de choses à faire, ils ne peuvent pas venir. Donc, il envoie ses serviteurs sur les places, ramener tous les boiteux, les mal fichus, les malheureux, les pauvres, les sales, etc. Ramener tout le monde pour entrer dans la salle du royaume. Et là, on s'aperçoit qu'il y en a un qui n'a pas revêtu l'habit de noces. Personne ne lui avait demandé de le faire, hein, et on ne sait pas comment sont les autres. Enfin, il y en a un qui n'a pas revêtu l'habit de noces. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on crie à la justice, au scandale, etc. Mais c'est clairement une figure de la nouvelle Église, des nouveaux disciples, ceux qui ont été ramenés après, quand ils oublient la justice comme mode de vie. Quand ils oublient la justice comme mode de vie, quand l'Église oublie la justice, c'est-à-dire au fond cette exigence radicale de la miséricorde, bah elle est jetée dehors. Voilà. Donc je pense que l'imagerie de Matthieu, la géhenne de feu qui nous scandalise, qui a suscité d'ailleurs des représentations traditionnelles du jugement au fronton de bien des cathédrales. Là, je vous ai mis la cathédrale de Conques avec l'image du jugement. Il n'y en a pas partout, mais enfin chez Conques, c'est très fort. Bon. Cette imagerie doit être comprise dans l'esprit que je viens de dire. Le jugement, c'est l'expression de la responsabilité chrétienne, de la responsabilité de chaque disciple, de la responsabilité de chaque église et de toute l'église qui est d'accomplir la justice. Selon le mot, c'est la miséricorde que je veux et non pas les sacrifices. Je suis venu appeler non des justes, mais des pécheurs. C'est rude, et c'est pour ça que l'évangile de Matthieu paraît si rude, mais elle est sous le signe de « Je suis avec vous pour toujours ». Alors, j'ai trop parlé, je conclus. Trois conclusions. Je reprends, hein. Le Christ de Matthieu, c'est le Jésus profondément juif, vers lequel convergent toutes les alliances, les attentes d'Israël, en qui s'accomplissent les Écritures et l'Alliance nouvelle. Et il est de ce fait même, parce que ça faisait partie des promesses à Israël, l'Emmanuel, Dieu avec nous, invitant ses disciples à le suivre pour devenir fils du Père qui est dans les cieux. Dès lors, deuxième conclusion, chacun est invité à se mettre à la suite du Christ enseignant. L'agir est premier chez Matthieu. La foi, c'est faire la justice. Un faire placé sous l'horizon du jugement. Et vous travaillerez, évidemment, la parabole du jugement dernier avec les brebis et les chèvres, hein, où le critère n'est pas la confession de foi, mais bien ce que vous avez fait à l'un de ces petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Il n'y a pas d'ouverture plus large à l'universel avec une responsabilité lourde. Et dernièrement, l'Église de Mathéenne, venue du judaïsme, hein, dont elle tire sa sève, venue du paganisme, qui est son horizon, a pour caractéristique, me semble-t-il, l'absence de toute exclusive, une ouverture illimitée et une responsabilité des disciples accompagnée par la miséricorde de celui qui est toujours avec eux et qui leur dit la miséricorde infinie du Père. Voilà, je m'arrête là. Je vous donne le dernier tableau qui fait pendant au premier. Du Caravage, celui qui a été refusé parce que trop osé. Mais je pense vous avoir montré que l'évangile de Matthieu, il y avait de la brutalité là-dedans. Il y a de la douceur, il y a l'ambiguïté de cet ange. Enfin, ça, c'est le tableau que les responsables de l'Église n'ont pas supporté. Voilà. Ceci dit, j'ai trop parlé et je vous laisse la parole. Vous êtes sûrement saoulé. Mais bon, vous pouvez quand même réagir. On a un bon petit moment de rédaction.
Voilà, moi c'est une petite question, enfin qui n'est pas très importante. Vous dites que que Matthieu c'est le premier des évangiles et il s'appuie sur l'évangile de Marc.
Oui. Ah, merci Claire. Effectivement, il y a une ambiguïté dans ce mot premier. Ce n'est pas le premier à avoir été écrit, c'est le premier dans la présentation que l'Église, dans toute sa tradition, a fait de ses Écritures. L'Église, dans ses Écritures, depuis le milieu du deuxième, la fin du deuxième siècle, Irénée, jusqu'à aujourd'hui, a toujours placé en premier, pour le Nouveau Testament, l'Évangile de Matthieu comme pont avec l'Ancien Testament. Voilà. Mais n'empêche que historiquement, au niveau de l'écriture, Marc existait avant Matthieu, qui a dû
D'accord.
l'utiliser, ça se voit.
OK.
Ça va, ça éclaircit, merci.
Ouais, merci.
Est-ce qu'il y a des réactions autres? Questions, réactions?
Oui, moi, c'était une petite précision sur les disciples chez Matthieu et les disciples chez Marc. Comme ils n'ont pas la même réaction, donc chez Matthieu, ils doutent. Est-ce que donc cette attente chez les disciples chez Matthieu, ça a quelque chose à voir sur l'attente du Messie et il reste même après la résurrection, ou ça change?
Non, je pense que ça change. Je crois que l'attente messianique est devenue, chez Marc comme chez Matthieu, enfin dans tout le Nouveau Testament, l'attente de la venue du royaume. Voilà. Jésus a annoncé le royaume. Après, les chrétiens vont annoncer Jésus ressuscité. Mais au fond, ce qu'ils attendent, c'est qu'il revienne en gloire, qu'il vienne en gloire, que s'installe la nouvelle création. Et ce que les évangélistes et Paul le premier, les évangélistes après, ont passé leur temps à leur dire, mais c'est n'attendez pas, c'est déjà commencé. On est en marche vers. Et c'est ça le signe étonnant qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27, qui n'est pas dit de la même façon chez Marc et Luc et Jean, c'est le seul. Au moment où Jésus meurt, il pousse un cri, le grand cri de Jésus. Le rideau du temple s'ouvre, la terre tremble, il y a un séisme, les rochers se fendent et les morts ressuscitent. On va dire, ne m'attendez 2 minutes là, Jésus vient juste de mourir, il lui faut 3 jours avant de ressusciter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de brutal changement de temps, quelque chose, une violation de l'ordre des temps, que Matthieu instaure à ce moment-là. Pour vous dire, mais attendez, la résurrection, elle est déjà là. Ça y est, ça commence, c'est tout de suite, c'est maintenant. Voilà. Nous sommes dans la résurrection. Après, il va falloir marcher dedans. Ça fait 2000 ans qu'on est dedans et ça avance pas vite. Mais bon, ça, c'est notre faute. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui,
C'est que ils ont passé leur temps à continuer à attendre et à s'entendre dire et à comprendre, parce que ceux qui écrivent, c'est aussi ceux qui comprennent et qui encadrent. Mais attendez, annoncer, c'est ça, il est déjà là. Il est avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué, parce que c'était compliqué pour eux de leur dire, de dire la résurrection est là, la résurrection est en marche, et de voir que rien ne changeait. Et on a même une lettre du Nouveau Testament, la dernière, la deuxième lettre de Pierre que vous lisez tous les matins dans votre prière, qui est écrite vers 120 ou quelque chose comme ça, où il est dit, il y a partout des gens qui se moquent et qui disent, depuis le temps qu'il l'annonce, le retour, rien n'a changé, il ne reviendra pas. Et l'auteur de Pierre répond, mais vous êtes complètement perdus. Pour le Seigneur, 1000 ans sont comme un jour. C'est rien du tout ce temps qui a passé. D'ailleurs, le Seigneur n'est pas en retard. Il fait simplement preuve de patience puisqu'il attend que tous se repentent et se convertissent. Alors, il attend toujours, hein. Mais voilà. Vous voyez, la réponse, c'est étonnant cette réponse. C'est oui, on n'attend plus le Messie, la résurrection. Ça y est, c'est là. Et en même temps, il faut vivre avec. En plus, on en est chargé. D'où la dureté de l'évangile de Matthieu. C'est cette, comment dire, cette prise de conscience, à mon avis, la responsabilité des chrétiens. Vous voyez? Il y a une prise de conscience qui fait. Moi, je pense que c'est pour ça que les Matthieu du Caravage sont aussi rudes, aussi durs. Il y a l'ange qui essaie de les atténuer un peu, de leur tenir la main. C'est qu'il y a une brutalité là-dedans pour dire, mais vous êtes responsable. Alors, il faut un peu quand même être accompagné pour ça, hein. Sinon, c'est trop brutal. Voilà. Voilà. Ça vous va comme explication?
Oui.
Je ne sais pas.
Oui.
J'essaye.
Après, dites les païens qui sont joints donc qui sont joints donc à la communauté de Matthieu. Est-ce que c'était des païens de grecs? C'est plus ça que Parce que comme ils
Okay.
sont pas, les évangiles ne sont pas adressés à aux mêmes communautés.
Alors,
D'un côté, Marc, c'est
oui.
les païens d'origine romaine, et d'autre côté, païens d'origine grecque.
Vous avez complètement raison, le mot païen n'est pas bon. D'abord, en plus, ça vient du français pagani, paysan. Du latin. Bon, le mot païen n'est pas bon. J'emploie païen pour traduire le mot grec qui veut dire les nations. Mais
D'accord.
en fait, on se place, quand on dit ça, on se place d'un point de vue juif. Du point de vue juif, et Paul est très clair pour ça, il est juif, il y a nous, les juifs, les circoncis, on va le dire en termes crus. Il y a ceux qui sont circoncis et ceux qui ne le sont pas. C'est tout. C'est ça la différence. Alors pour les femmes, ça ne joue pas, mais les femmes ne comptent pas dans ce monde-là. Voilà. Il y a ceux qui sont circoncis et ceux qui ne le sont pas. Parler païen, c'est dire ceux qui ne sont pas circoncis. Après, quelle que soit leur origine, on est dans l'Empire romain. Dans l'Est de l'Empire romain, tout le monde parle grec. À Rome, la bonne société parle grec. Bon, on parle aussi beaucoup latin et de plus en plus, hein. Mais enfin, Irénée de Lyon, qui vient de ce monde grec et qui va être évêque de Lyon, il écrit en grec quand même. Voilà. Et il est dans un monde quand même qui est très à l'ouest, si vous voulez. Alors on dit toujours que Lyon est la ville la plus occidentale de l'Orient chrétien, mais enfin, c'est difficile d'aller beaucoup, beaucoup plus à l'ouest. Après, vous êtes dans l'océan Atlantique, hein. Voilà. Donc les païens, c'est tous les autres, les non-circoncis, essentiellement à Antioche de Syrie. Oui, ce sont un mélange de Grecs, de gens venus beaucoup plus d'Orient quand même, hein, beaucoup plus d'Orient de ces de la, alors il y a ceux qui viennent de la Mésopotamie, des immenses empires qui étaient avant la Syrie et la Babylonie, hein, en partie recouverts par les Grecs, largement recouverts par les Grecs, en partie seulement par les Romains. C'est les gens de l'Empire romain qui sont pas circoncis. Voilà.
Oui.
Que ça va comme
Oui,
Alors,
merci.
parmi eux, les premiers convertis sont certainement au christianisme, sont certainement des crédits en Dieu, c'est-à-dire des gens qui s'étaient approchés beaucoup du judaïsme, fascinés par le judaïsme, sans aller jusqu'à la circoncision. Voilà. C'est sûrement les premiers. Mais ensuite, il y en a eu certainement très vite beaucoup d'autres. Ce qui est étonnant, et là, ce que vous dites est très éclairant pour ça, ce qui est étonnant, c'est à quel point c'est allé vite la diffusion du christianisme tout en restant extrêmement petit. C'est-à-dire, il y en a eu très vite, un peu partout. C'est allé très vite. Les routes romaines ont joué, les voyages de Paul, de Pierre et des autres, ils ont bougé tout le temps. Les routes romaines facilitaient, la mer aussi. Et ils ont créé partout des petits groupes. D'abord parce que le judaïsme était répandu partout, qu'on partait quand même de l'entourage des synagogues et des craignants Dieu, mais des groupes quand même très petits, très restreints, et qui vont rester assez longtemps restreint. Tout en se. Comment dire? Il y a un mouvement missionnaire qui est très étonnant, tout en se multipliant, tout en s'étendant. Voilà. Et ça, c'est bien marqué dans l'évangile de Matthieu à la fin. Allez, allez, chez Marc aussi, allez en Galilée. La Galilée, c'est le carrefour des nations, c'est. Voilà. C'est ailleurs. Hein, allez ailleurs. Ouais.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement en quoi l'évangile de Matthieu est-il plus brutal que les autres évangiles, et
Non,
notamment
il
les
est.
autres, et notamment les autres synoptiques?
Alors, il est. Alors que Luc, oui, Luc est quand même. Luc a tenu toujours les conflits, Luc adoucit les choses. Luc, il est quand même très, très bienveillant. Il n'est pas plus brutal que Marc, parce que Marc a quelque chose de plus rude au niveau du fait de traîner la communauté devant la croix. Mais je le trouve brutal dans sa façon de, sans arrêt, enfin, beaucoup, poser, tout en étant conscient de la faiblesse, de la fragilité, du fait que les disciples sont des gens partagés, mélangés d'ivraie, d'ivraie et de bon grain, il est rude dans son affirmation de la radicalité du message et de l'horizon du jugement. Parce que c'est sa façon à lui de dire la responsabilité et de dire ne croyez pas que c'est acquis. Voilà. Donc je trouve qu'il est dur dans cette dimension-là, d'insister sur la responsabilité, et c'est vrai que l'évangile de Matthieu est très fondé sur une relecture de la loi, sur la responsabilité morale des disciples et de l'Église. Ce que Marc ne fait pas. Marc, il est dans la
Merci.
foi. Il faut croire et mourir. C'est beaucoup plus centré sur la croix. Mathieu, non, c'est centré vraiment sur le chemin à suivre, hein, et sur la vie du disciple.
Ok, merci.
Est-ce que, moi j'ai une question, est-ce que justement la dureté de son évangile ne provient pas de la radicalité de son appel et de la façon dont il a suivi Jésus alors que c'était un collecteur d'impôts, c'était quelqu'un qui était complètement à l'opposé des idées de Jésus et que justement il réclame la même chose des autres, de se retourner et d'y aller comme.
Oui, enfin, je dirais oui, si vous voulez. Je modulerai un peu ce que vous dites, parce que l'évangile n'a pas été écrit par Matthieu, le collecteur d'impôts, hein. Ça, c'est
Non.
clair. Ils se mettent sous le patronage de Matthieu, donc probablement la communauté, certainement, a été fondée par, mais après, voilà, on avance. Hein, dans les années 80, le Matthieu collecteur d'impôts, qui avait 40, 30 ou 40 ans en 27, il a quand même beaucoup vieilli. Hein, voilà. Il n'est plus là. Donc, on a ce modèle-là. Maintenant, la radicalité des appels des disciples, c'est vrai pour tous. Les pêcheurs sur le lac qui doivent quitter leur. Les récits d'appel des quatre premiers disciples, puis de Matthieu, et ensuite la nomination des autres, sont tous bâtis sur cette idée d'un retournement complet de la situation instantanée, alors que ça n'a certainement pas été instantané. L'évangile de Jean est beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus réaliste de ce point de vue, quoi qu'on dise. Parce que chez Jean, il se pose des questions, il vient voir Jésus, il leur demande où habites-tu, venez et voyez, et puis ils vont chercher le frère, et puis ils vont chercher le copain, tout le monde se pose des questions. Enfin, l'évangile de Jean témoigne du fait que le recrutement des disciples est probablement un processus plus lent que l'image radicale, mais volontairement, donnée par l'appel des quatre premiers disciples et l'appel de Matthieu, le collecteur d'impôts, qui laisse tout pour suivre Jésus. Il a dû rendre des comptes, hein, on ne laissait pas comme ça le bureau des taxes avec la caisse dans le tiroir caisse plein. Hein. Aussi. Vous voyez, je crois qu'il y a une mise en forme pour dire oui, effectivement, le suivre, c'est un changement radical. Dans la réalité d'une vie d'homme, ça peut se faire de façon plus. Ça peut se faire de façon brutale, ça peut se faire de façon plus progressive. Voilà.
On a parlé de l'AGN
Oui?
et on a parlé l'AGN, l'enfer, la culpabilité, la punition. C'est quelque chose qui a été un discours, je dirais, omniprésent dans l'Église. Pour moi, ma foi est conditionnée à un Dieu d'amour et de miséricorde. Et je n'arrive pas à faire le lien entre les deux.
Ben vous avez raison. D'abord, moi, je n'ai pas parlé ni d'enfer ni de punition. Hein. Ça, c'est vous qui l'avez ajouté, vous faites remarquer. Oui, j'ai parlé de la géhenne de feu parce que Matthieu l'emploie. Je n'ai pas parlé d'enfer et de punition. J'ai parlé de jugement et d'images issues de la littérature apocalyptique. Et la géhenne en fait partie. Il y avait une vallée à Jérusalem qui avait de sinistres réputations, qui a servi à la littérature apocalyptique pour progressivement construire des images du châtiment. On est à une époque, au premier siècle, où dans la littérature juive se met en place cette idée d'un jugement de Dieu qui d'abord ne concerne que les justes, dans les plus anciens textes de la littérature apocalyptique, hein, c'est elle qui met en place l'idée du jugement. D'abord, ça concerne que les justes. Chez Isaïe 26, chez Daniel 12, qui sont les deux seuls endroits où ça apparaît dans les écritures juives, hein, il n'y a que les justes qui se relèvent et qui, chez Daniel, vont briller comme des étoiles. On n'entend pas parler des autres. Et juste avant notre ère, le livre de la sagesse ne parle pas d'un châtiment des impies. Il dit simplement les impies, les injustes, enfin les méchants. Ils croient à la mort, donc ils vont à la mort, c'est tout. Voilà. Vous croyez à la mort, et bien vous allez à la mort. Le juste, lui, malgré les apparences, il vivra. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'abord de ce côté-là. Petit à petit, l'idée se fait, mais alors qu'est-ce qu'ils deviennent, ces méchants? Et puis quand même, ils nous ont fait beaucoup de mal, on ne pourrait pas un peu les punir. Alors voilà, on a introduit la punition et on introduit des images de... Alors de quoi? De châtiment, alors la géhenne de feu, on les brûle. Bon, après tout, on aurait pu aussi inventer un enfer où il fait froid. Bon, il y a les images de l'Hadès et du Shéol qui viennent percuter celle-là, qui existent aussi. Mais petit à petit, des représentations se mettent en route, qui vont être celles de l'apocalyptique, et Matthieu commence à les utiliser. Le drame, c'est quand les représentations gagnent du terrain, qu'elles s'organisent, et que ça devient le fronton des cathédrales de l'abbaye de Conques, avec les horreurs de ceux qui sont bouffés par l'énorme gueule de l'enfer, ceux à qui on arrache la peau. Enfin, l'imagination humaine, dans la torture, elle n'a pas de limite. Voilà. Et après, on s'est complu de ça. Mais chez Mathieu, c'est juste ébauché, hein, c'est l'idée, voilà. Il faut en faire quelque chose de ceux-là qui sont jugés. Allez. En fait, ça veut dire la séparation d'avec Dieu. Et de fait, la bonne nouvelle, c'est la miséricorde de Dieu, hein, qui est venu chercher la brebis perdue. Pas les justes, mais les pécheurs. Alors, dans notre tête, parce qu'on se sent toujours un peu juste quand même, on atténue la brebis perdue, le pécheur, on voit le pauvre, le malheureux, l'indigent, etc., qui sont peut-être pas du tout plus pécheurs que nous, peut-être moins. Le pécheur, c'est celui qui a vraiment péché. C'est plus grave que ça. Voilà. Et c'est celui-là quand même qui va chercher. On a un peu de mal à se mettre ça dans la tête. Et pour lui, est la miséricorde. Est-ce qu'on a encore des questions? Parce que je ne vais pas vous tenir trop longtemps. Il y en a peut-être qui ont faim. Ça va?
Juste une précision, jugement sur le jugement encore, parce que c'est vrai que ça passe mal le jugement. On a l'impression qu'on est face à une rétribution et qu'on fait du commerce. Et on dit souvent que Jésus, il est venu plus. Il a dit lui-même qu'il n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Alors,
Oui.
mais je me souviens plus de quel évangéliste c'est.
C'est Jean.
C'est Jean,
Jean.
voilà,
Le
c'est
début de
ça.
l'évangile de Jean.
Ouais,
Jean 3.
et comme c'est dans la communauté joannique qu'on parle de l'Apocalypse et que Matthieu s'inspire de l'Apocalypse, tu viens de le dire,
L'apocalyptique.
y a pas, ah oui, apocalyptique.
Ben oui, il
Alors,
n'y a pas encore.
c'est pas tout à fait pareil, alors.
Ben, c'est pas le texte de l'Apocalypse.
Ouais, d'accord. D'accord. Et donc, y a pas quand même. On a plutôt envie d'aller vers Jean, sa pensée que Dieu est venu nous sauver plutôt que nous juger. Et
Oui.
ce mot jugement, il est un peu piégé, non?
Ben oui, il est piégé jusqu'au jour où on se dit il y a une responsabilité quand même. Ça va bien, tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil. C'est très à la mode aujourd'hui. Et oui, si, 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 tout le monde il s'aime, tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil, Frédéric Lenoir et compagnie. Non, il y a du péché, il y a du mal dans le monde. Le jugement, c'est ça que ça rappelle. Ah non, mais je sais bien. C'est pas à la mode aujourd'hui le jugement, je sais bien, mais c'est dangereux que le jugement ne soit pas à la mode. Le péché originel n'est pas à la mode, et je suis la première à dire qu'à l'origine il y a la bénédiction et pas le péché. N'empêche que ce qu'il dit, c'est que on n'en a pas fini avec le mal. Voilà, et ça, on peut pas l'oublier. Voilà, et c'est au fond, en y réfléchissant bien, c'est ça que le jugement rappelle, c'est que. C'est pas parce que vous êtes des bons chrétiens, bien baptisés, bien confirmés, bien ceci, bien cela, ayant tout bien fait, que vous en avez fini avec le mal. Et ça, je crois que, en tout cas, vous n'en avez pas fini avec la responsabilité. C'est rude, mais c'est pour ça que Matthieu est rude. Alors, être rude à son époque, c'est dire les choses avec des images qui nous gênent aujourd'hui et avec un vocabulaire qui nous gêne aujourd'hui, le jugement. N'empêche que, quand on évacue un peu trop vite, alors les images vous pouvez, mais quand on évacue le vocabulaire un peu trop vite, et l'idée même du jugement un peu trop vite, je ne suis pas pour le jugement, je tombe de dessous le coup du jugement à la première, et donc j'espère bien que Dieu aura miséricorde, mais on ne peut pas évacuer trop vite l'idée du jugement. Vous voyez ce que je veux dire? parce que le mal existe. Et parce que l'ivraie, elle est dans le champ, le nôtre, le vôtre, celui de tout le monde et celui de l'Église, jusqu'à la fin des temps. Il le dit bien, hein? On va garder l'ivraie jusqu'à la fin des temps parce que sinon on risque de tout arracher. Et voilà. Et donc, il faut faire avec.
En fait, on n'avait pas comparé, je crois pas avoir entendu ce soir, avec la perspective de Paul où tout est grâce. Et je trouve que c'est très éclairant de comparer la perspective tout est grâce et la perspective de la responsabilité de Matthieu.
Tout à fait, les deux sont vrais et il ne faut pas durcir ni l'une ni l'autre. Parce que dans la perspective de la responsabilité de Matthieu, il y a quand même le heureux, il y a je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, il y a le fait que ses disciples qui doutent, il leur dit allez, 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 pourquoi t'as douté là, en avant. Et chez Paul, tout est grâce, mais les derniers chapitres de Paul sont des exhortations d'une exigence aussi lourde que celle de Matthieu. Mais c'est après. Paul simplement, il dit, ça vient après. Autrement dit, vous êtes armés pour. Ce que dit Matthieu aussi avec le bienheureux. Hein. Donc, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, les accents sont absolument ceux que vous avez dit. Mais dans les deux, il y a la contrepartie.
Sur la
Comment je
question du jugement, Balthazar, dans Espérer pour tous, il parle beaucoup de la dimension pédagogie de Dieu.
Oui.
C'est-à-dire, c'est pas faire peur comme pour s'amuser à faire peur, mais c'est quand même comme justement ce rappel qui est violent, surtout à des fins pédagogiques pour éduquer le cœur de l'homme qui est long à être éduqué.
Oui, non mais c'est sûr, et comme toujours, le problème c'est qu'est-ce qu'on fait avec la pédagogie? La pédagogie de Dieu, c'est parfait. Quand ça devient la pédagogie d'un certain nombre qui l'utilise pour mettre les autres au pas, il y a un problème. Voilà, c'est à condition de ne pas pervertir la pédagogie. Écoutez.
Roselyne,
Voilà. Oui,
j'avais encore une petite
encore une
question.
petite question, après on arrête, oui.
Enfin, ce n'est pas vraiment une question. Attends, j'essaie de remettre. C'est Mariana. Tu as parlé tout à l'heure de la substitution et tu avais dit dans ton propos que tu reviendrais là-dessus.
Sur
C'est une grossière.
l'évangile de la
La
substitution,
théorie de
oui.
la substitution, c'est parce que comme
Oui.
il est très judaïsant ou très proche du monde juif, alors, si tu pouvais un petit peu développer.
La substitution, c'est le mouvement qui, à partir du milieu du deuxième siècle, des gens comme Méliton de Sardes, la lettre de Barnabé, se sont mis à dire, à la suite de Matthieu, mais en allant beaucoup plus loin, bon, échec d'Israël, l'Église a pris la place, c'est l'Église le véritable Israël. Or ça, malheureusement, une partie de la tradition de l'Église s'en est nourrie. Nous sommes le véritable Israël, d'où les persécutions contre les Juifs. Donc. Et ça, c'est une horreur. L'évangile de Matthieu peut être lu, peut être interprété comme ça. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il faut désamorcer cette lecture. Parce que ce qui est dit de l'échec d'Israël, on peut le transposer aussi bien sur les risques d'échec pour les communautés chrétiennes. Paul le dit autrement. Il dit il y a une espèce de concurrence entre les deux. Quand les uns tombent, les autres se relèvent. Quand les autres tombent, les uns se relèvent. Voilà. Mais il n'y a jamais l'un à la place de l'autre. Et là, à mon avis, l'erreur dramatique, plus que ça, tragique de l'Église à travers les siècles, a été de croire qu'elle avait pris la place d'Israël. Il a fallu, de Paul à Vatican II, il n'y a eu personne, il y a eu des gens, mais tellement rares, pour dire attention, ça c'est faux. C'est ça qu'il faut vraiment essayer de relire Matthieu en se disant, mais c'est pas ça qu'il dit, étant lui-même complètement juif. Ça va, ça répond? Voilà. Eh bien, écoutez, merci de votre attention. Donc, vous retrouverez tout ça, comme ça, vous pourrez le regarder à tête reposée. Plus tard, vous allez recevoir tout ça. J'arrête.
Merci beaucoup, merci, c'était
Et
vraiment
je vous souhaite une bonne
brillant.
soirée.
C'était
Merci,
brillant.
bonsoir.
Merci.
Merci
Merci
beaucoup.
beaucoup.
Merci Roselyne.
Bonne soirée.
Merci beaucoup. Bonne
Merci
soirée.
Roselyne.
Bonne
Bonsoir.
soirée.
Merci
Bonsoir.
Roselyne.
Fermé. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Roselyne.
Voilà.